Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinébrunch, l'émission qui n'a pas peur de se partager le popcorn. Je suis accompagné de mes co-animateurs, Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour.
Et Jim Boulay.
Hey, salut.
Cette semaine, on a une semaine quand même chargée où on se parle de nos top 3 de films de Disney. Jim nous parle de films météorologiques, mais...
oui, clairement.
Avant ça, on va aller se parler de ce qu'on a vu cette semaine. Jim, as-tu des nouvelles pour nous?
Oui, en fait, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, en fait, je pense la semaine dernière, on parlait comme quoi Netflix faisait des bonnes séries originales, mais parfois les films produits par ou pour Netflix n'étaient pas toujours vargeux. Mm-hmm. Alors, je me suis dit, tiens, je vais leur donner une chance cette semaine, et j'ai vu un film sud-coréen produit pour Netflix qui s'appelle Psychokinesis. Psychokinesis, okay. Ouais. J'ai pris des précautions, alors 88% sur Rotten Tomatoes, je me suis dit... ça a l'air, je pense que je peux me le permettre celui-là. Alors, l'histoire est simple. Un genre de météorite tombe dans le sud de la Corée et transmet un pouvoir étrange à l'eau d'une source. Un travailleur boit l'eau et obtient des pouvoirs de télékinésie puissants, lui permettant de soulever et de déplacer des objets par la pensée. Bon, jusque-là, ça se tient avec l'idée de télékinésie. Maintenant, c'est pas écoutable. Après une demi-heure, j'ai arrêté de l'écouter, j'étais juste plus capable. Les personnages qui pensent tout haut, des jeux très théâtral, on est vraiment dans le film asiatique, là, typique, mais franchement, du gros drama pour pas grand-chose. Bref, écoutez pas ça, c'est vraiment, vraiment pas bon, et je pense que c'est sûrement que des Sud-Coréens qui ont voté sur Rotten, parce que c'est vraiment pas représentatif de ce qu'on considère ici comme un bon film là, pourtant, ou ailleurs dans le monde.
Et pourtant, il y a énormément de films sud-coréens qui ont défoncé le box-office et qui sont excellents encore aujourd'hui.
En tout cas,
toute la trilogie de Sympathy for Lady Vengeance.
Ça, je connais pas.
Ah, tu devrais pourtant. Old Boy vaut la peine définitivement.
En tout cas, Télékinésis a défoncé le box-office par en bas et je pense qu'il est en train de sacrer quelqu'un dans le void, comme on dit.
En même temps, il n'y a pas de box-office quand c'est sorti sur Netflix.
Ah, voilà. Mais... oh, convenient.
Mélina.
Oui, hey, tantôt, comme tu disais, Louis, on va vous parler de nos top 3 de nos films préférés de Disney. Fait que moi, j'ai fouillé un peu les internets, puis j'ai appris qu'il y a d'autres films de Disney qui seraient prévus pour sortir en live-action movie, donc en film avec des prises de vue réelles, donc pas d'animation. On sait déjà qu'il y a Dumbo qui est prévu pour le mois de mars 2019, réalisé par Tim Burton. Mais j'ai appris qu'il y a également Aladdin et Le Roi Lion, qui sont tous les deux prévus pour 2019. Donc, et le rôle du génie dans Aladdin va être tenu par nul autre que Will Smith.
OK.
Ça va être drôle.
C'est intéressant.
Ça va être drôle.
On prévoit, le tournage est fini, donc ça va sortir au printemps 2019.
On s'entend, parce que le problème avec Will Smith, c'est qu'il a fait des films extraordinaires d'humour. On pense à la série Men in Black. Mais il a aussi fait des films vraiment pourris.
Je pense qu'Aladdin, ça peut bien se passer.
Ça va être vraiment intéressant. On dirait qu'il y a vraiment Disney sont vraiment partis là-dessus. Et pour finir, j'ai même vu qu'il y avait Mulan qui était prévu, mais pour 2020. Donc voilà, moi j'espère qu'ils vont faire les Aristochats en live action movie, ça serait vraiment intéressant, mais bon.
En même temps, les derniers films qu'ils ont fait avec des chants, je pense à Garfield, c'était pas bon.
C'est vrai que c'était vraiment pas bon.
Ouais. Dur à
c'est
imaginer.
De Disney, Garfield?
Non, mais
en général. Ouais, c'est pas toujours bon, hein, les refontes.
Alors, on verra avec Le Roi Lion, Dumbo et Aladdin.
Merci. Moi, je vous parle aussi d'un film. Un remake qui va avoir une suite. Je parle ici d'une des icônes de la science-fiction qui est Robocop, qui est l'original des années 80, qui a eu un remake
ça fait pas si longtemps.
Mais là, il y a une suite à ce remake-là qui va être dirigée par Neil Blomkamp, directeur également de District 9, qui était un autre film de sci-fi vraiment extraordinaire. Et là, c'est vraiment intéressant, c'est que le rôle d'Alex Murphy dans Robocop Returns va probablement être joué par Peter Weller, qui est l'original homme derrière la visière de l'homme de fer. Donc, un retour aux sources pour la série Robocop, ce qui pourrait remettre au goût du jour et en même temps remettre la nostalgie ensemble. Je sais pas, j'ai bien hâte de voir.
On verra.
C'était pas bon, mais c'était pas mauvais, non, la, moi, le j'aimais... remake de Robocop.
Moi, j'aime bien quand Robocop, dans les vieux, là, il lisait extrêmement vite les livres là, dans une librairie.
Les originaux de Robocop, le premier particulièrement, est délicieux. Le remake de Robocop est, est correct, sans bon, plus.
J'irai pas le voir.
Non. De quoi? Ben, ça dépend si le 2 est bon. Si le 2 est bon, on va voir le premier. Mais bon.
Comme... Ben, tu me le diras, Louis, tu vas sûrement le critiquer. Fait
oui,
que,
mais on s'en reparlera, c'est quand même prévu pour 2019 aussi.
On a de la marge.
Plus tard.
D'accord, merci Louis.
Yeah. Donc, ce serait ça. Mélina, t'as été voir un film sur les relations parentales.
Exactement.
Sur Freud. Sur... non, mais des complexes d'Oedipe, les parents, juste... Non?
Relations parentales, ça peut marcher, lui.
Ouais, OK.
J'ai vu, en fait, c'est un film sur Netflix que j'ai vu. Le film, il s'appelle en anglais « Like Father » et en français, le film s'appelle « Tel père ». Et c'est réalisé par Lauren Miller Rogan, qui se trouve être la femme de Seth Rogan, qui joue également dans le film. Et le rôle principal est tenu par Kristen Bell. Et donc, Madame Bell est une actrice qui a joué dans de nombreuses comédies et plusieurs séries.
Elle est très belle.
Elle est très belle, voilà, exactement. Alors, on dit qu'elle aime beaucoup parler au téléphone aussi.
Bref.
Donc, elle était notamment dans le film Bad Moms, que j'ai critiqué pour vous durant le temps des fêtes. Elle est également connue pour avoir joué dans la série Véronica Mars, dans le film Oublie Sarah Marshall, et pour être aussi la voix de la princesse Anna dans La Reine des Neiges. Donc, c'est ça pour Kristen Bell. Dans le film aussi, on a Kelsey Grammer, qui joue le rôle du père, et comme je le disais tantôt, Seth Rogen. Donc, on va aller écouter la bande-annonce.
Qu'est-ce qui vous amène sur cette croisière?
Mon fiancé m'a planté devant l'hôtel il y a quelques jours. Et mon père, que je n'avais pas vu depuis l'âge de 5 ans, s'est pointé à mon mariage sans rien dire, et puis on a passé la soirée à se saouler tous les deux, et j'ai dû avoir un trou noir parce que...
Bonjour, chérie.
Et je l'ai traîné sur ce bateau réservé au départ à ma lune de miel.
Waouh! Je ferai pas ça avec mon père avant son 200e anniversaire.
Vous êtes dans la suite, jeune mariée. Félicitations.
Taisez-vous, c'est mon père.
Je pense que Louis, tu te prévois une petite soirée Netflix ce soir, toi, hein?
Oh, que oui!
Ça t'interpelle!
D'écouter la série Altered Carbon,
c'est d'accord.
Excellent.
Donc,
parce
c'était...
que non, ça ne m'appelle pas.
Ah, d'accord.
Pourtant, j'aime Seth Rogen, mais là...
Non.
Donc, c'était la bande-annonce du film Tel père, un film produit par Netflix. Donc, comme on a entendu dans la bande-annonce, c'est l'histoire de Rachel qui est extrêmement dépendante de son travail et qui se fait laisser en plein milieu de son propre mariage par son fiancé. Et donc, elle se saoule la gueule et rencontre son père qu'elle n'a pas vu depuis 25 ans. Les deux sont complètement sous et décident de partir ensemble sur la croisière qui avait été réservée pour la lune de miel. Ils se réveillent le lendemain matin avec plusieurs regrets, mais évidemment, ils sont coincés ensemble sur le bateau de croisière parce que, hein, on sait que c'est assez difficile de quitter une croisière alors que le bateau est en plein milieu de la mer, on s'entend. Bref, ils sont obligés de passer du temps ensemble et c'est pas mal ça, le film.
Calvin, c'est ça, le film!
Ils passent du temps ensemble, il leur arrive des aventures et voilà, on explore la relation père-fille. Père qui a abandonné sa fille pendant 25 ans, donc c'est assez intéressant. Mais c'est sûr que c'est pas le film du siècle, c'est même pas le film de l'année, je dirais.
Est-ce que c'est le film du jour ou du mois?
C'est le film de 15 minutes?
Ouais. Non, mais en fait, je vous dirais que ce qui m'a conquis dans ce film-là, c'est les paysages, l'océan, les cascades d'eau, les petites îles perdues dans le Pacifique, qui font remonter beaucoup la note parce que c'est juste magnifique et extrêmement rafraîchissant en ces chaudes journées d'été. Pour l'histoire en tant que telle, c'est bien, c'est quand même original, c'est drôle, ça aurait pu être plus drôle, mais quand même, on arrive à avoir un film qui est quand même drôle. C'est un bon divertissement léger. C'est sûr que, écoutez, j'avais pas de grandes attentes avant de voir ce film-là, parce que on en parlait tantôt, les films Netflix, du moins pour moi et Jim, ont vraiment pas une bonne réputation. Et parce que j'ai souvent été déçue, en fait, par des films produits par Netflix. Alors, j'avais pas des grandes attentes, donc je juge que ce film-là est plutôt réussi dans l'ensemble. Je pense que c'est un film qui aurait clairement pu être présenté au cinéma. Et franchement, je vous dirais qu'il y a des comédies pires que ça qu'on voit au cinéma, qu'on voit trop souvent même au cinéma.
Le retour de papa.
Exactement.
Mom's Christmas, les mères qui
Les mères indignes cette tape Noël. Film dans lequel, justement, Kristen Bell a joué aussi. Elle est vraiment connue pour faire de la comédie. Elle est très bonne dans son rôle. Mais c'est pas un grand film. C'est bien. Et je donne donc un 6 sur 10. Et fait intéressant, c'est un film Netflix qui a été doublé, entre autres, en français. Donc, pour ceux qui souhaitent l'écouter en français, c'est tout à fait possible. Mm-hmm. Donc, voilà pour Tel Père.
Bon, ben merci beaucoup, Mélina. J'ai été voir des films cette semaine.
Ben.
Mais moi, j'ai été voir un film moins drôle. C'était quand même une comédie, mais c'est une comédie comme biographique. J'ai été voir The Black Klansman, en français Opération Infiltration, qui est un film dirigé par Spike Lee, qui mettait en vedette John David Washington, Adam Driver, qu'on a connu dans l'extraordinaire Star Wars,
oui.
Alec Baldwin, Isaiah Whitlock Jr., Robert John Burke, et Michael Buscemi. Ron Stewart est le premier détective afro-américain à être engagé dans le service de police de la ville de Colorado Springs. Au même moment, l'endroit connaît des tensions importantes en raison de revendications politiques faites par des étudiants afro-américains. Pour éviter que les mœurs ne s'échauffent et que le suprémaciste blanc réplique avec violence, Stallworth et son collègue Flip Zimmerman mettront en exécution un plan audacieux et très dangereux. Une infiltration de l'organisation locale du Ku Klux Klan. C'est basé sur des faits réels, c'est-à-dire que une opération d'infiltration faite par un homme de couleur nommé Ron Stallworth est effectivement arrivé à Colorado Springs dans les années 70.
C'est historique, mais c'est pas un documentaire, puis c'est quand même probablement un peu fictionalisé, là. Fictimisé.
Pour avoir vu une entrevue avec l'auteur, qui est encore en vie, là, Ron Stallworth, a 80 ans, mais est encore là aujourd'hui. 70 ans, mais est encore là aujourd'hui. Beaucoup de ce qui s'est passé dans le film, en fait, est véridique. Okay. C'est-à-dire que le langage a peut-être été dramatisé. Il y a quelques scènes qui n'ont pas arrivé exactement comme ça. Mais pour la plupart, il y a même une scène majestueuse où il y a une photo qui est prise. La photo existe en ligne.
OK, ils ont reproduit là, la même photo, dans le fond.
Je te dirais que je veux pas divulguer,
okay.
Parce que c'est un moment vraiment drôle du film.
Okay.
Mais la photo existe.
Ah, mais moi, je m'attendais que ça
trouvable.
Soit pas drôle du tout comme film. Fait que c'est quand même drôle.
Oui. Non. Un peu.
Okay. Je suis confus, là.
OK. C'est Spike Lee qui dirige. Fait que nécessairement, c'est un film intellectuel, revendicateur, qui réussit très bien de mettre en relief ce qu'il veut dire dans le film. Alors, on va se donner une idée. On va aller voir un peu le thème de la chose. On va écouter la bande-annonce.
Allons-y.
Bonjour, je m'appelle Ron Stallworth.
À qui ai-je l'honneur, au juste?
C'est David Duke.
Le grand sorcier du Ku Klux Klan, le vrai David Duke?
Seigneur. Aux dernières nouvelles, ouais. Que puis-je faire pour vous?
Bien.
Si vous voulez savoir, depuis toujours, je déteste les négros. Je déteste les juifs. Et aussi les latinos, les irlandais, les ritals et les shintoks. Mais que Dieu m'en soit témoin, c'est surtout les négros que je peux pas sentir. Et tous les êtres dégénérés qui n'ont pas la chance d'appartenir à la race blanche et aryenne.
Ah, ça me fait plaisir de parler à
un vrai patriote blanc. Que Dieu bénisse l'Amérique blanche, monsieur. Il risque d'y avoir un attentat du KKK.
Et comment tu prévois procéder pour cette enquête?
Bien, j'ai établi le contact, mais j'aurai besoin d'un agent à la peau blanche pour jouer mon rôle quand il les rencontrera en personne.
Je suis déjà intéressé de voir ce film.
Et ça vaut la peine.
Ouais.
C'est sûr que c'est un film qui, au niveau de la revendication, est très clair. Il y a plusieurs scènes vraiment prenantes. Spike Lee tente vraiment fort et n'a pas tant à travailler fort pour créer des parallèles entre la situation dans les années 60 ainsi que ce qui se passe aujourd'hui. On entend plusieurs reprises des personnages s'exclamer « Let's take back America »,« Let's make America great again »,« Let's make America number one ». Donc,
on est dans le patriotisme, là, disons.
Oui, mais faire des références au président actuel.
Oui,
il y a même une scène plutôt qui, si elle avait été tournée voilà 3 ans, juste avant l'élection, aurait été vraiment annonciateur. Maintenant, ça tombe un peu à plat parce que c'est arrivé, mais aussi vraiment. Ben voyons, je pense pas que quelqu'un comme David Duke pense à s'en aller pour la présidence pour des fonctions publiques. Puis le personnage lui répond. Ouais, mais pour un noir, t'es naïf parce que eux, c'est ça qu'ils essaient de faire, c'est de dire qu'ils vont rapper les enjeux racistes au travers des taxes, au travers de l'immigration, au travers d'affirmative action, les politiques qui imposent des quotas sur certaines universités, pour finalement faire élire un président qui représente David Duke. Et c'est particulièrement prenant quand on sait que Trump a non seulement déjà reçu un appel de David Duke à la Maison-Blanche, que sur la campagne, ils se sont parlé à quelques reprises, que David Duke était présent à certains événements de Donald Trump.
Mon Dieu, je connaissais pas ces histoires-là.
Non, c'est un peu grave. David Duke, d'ailleurs, qui est encore politiquement actif aujourd'hui, là. Il a pas arrêté le grand sorcier du Ku Klux Klan, qui à l'époque venait de se faire nommer directeur national du Ku Klux Klan.
Et, oui, ça sonne pas pareil. Mais,
non, ça sonne un peu plus respectable.
Mais dis-moi, le monsieur qui infiltre, là, qui est le
Ron Stallworth,
on va dire ça comme ça, lui aussi est toujours vivant, ce que tu disais tout à l'heure. Et ce monsieur-là, est-ce qu'il s'est prononcé par rapport à ça, par rapport au film?
Au film?
Oui.
Je pense qu'il dit qu'il aimait ça, mais sans plus.
Ah, d'accord, OK.
Mais je pense qu'il a participé au processus. Il faudrait que je réécoute, là, comme toutes les bouts. Moi, je suis surtout intéressé par les trucs drôles. Mais c'est ça. Mais bref, ce que c'est ça. C'est Ron Stallworth qui arrive au département de police de Colorado Springs. C'est le premier policier noir qui se fait engager. Il se fait mettre dans l'unité des archives comme poste un peu pour se faire oublier. Il y a des policiers racistes, il y a des tensions raciales assez fortes dans la ville. Puis là, un moment donné, lui en rentrant, il a demandé à être dans les unités d'infiltration. C'est ça qu'il veut faire.
Mm-hmm.
Puis là, à un certain point, le chef de police vient le chercher, lui dit « On a besoin de toi ce soir, faut que t'ailles infiltrer quelque chose. » Il est comme « Yeah!
» OK.
Faut que t'ailles infiltrer la conférence d'un un conférencier noir célèbre qui est un ancien membre des Black Panthers qui, on craint, va venir instiller la révolution dans la tête des jeunes noirs de Colorado Springs.
OK, c'est particulier quand même.
Ça redescend pas mal vite son bateau, mais il accepte le truc. Il s'installe, il rencontre une unité d'infiltration, il met le wire, il va à la conférence. Puis, à partir de ce moment-là, il y a comme des personnages récurrents de la conférence qu'il rencontre à ce moment-là, qui restent dans le film après ça. Puis, il y a toujours un contraste qui est fait entre, justement, les membres du mouvement des droits sociaux, des descendants un peu idéologiques de Martin Luther King. Et donc, toute l'idée du Black Power.
Mm-hmm.
Et ensuite, avec les discours excessivement racistes du Ku Klux Klan, du White Power, il y a une scène absolument magnifique où il y a une juxtaposition, justement, de un homme noir d'un certain âge qui raconte que son frère s'est fait lyncher. Puis, un homme blanc qui est en train de raconter que l'Amérique se fait envahir par les Noirs puis que les protestants ont plus leur place. Et les deux finissent sur Black Power, White Power, et le film les juxtapose de manière vraiment extraordinaire. Donc, ce que ce film-là perd en subtilité, parce que Dieu du ciel, il n'y en a jamais, que ce soit au travers de l'idéologie ou est-ce que c'est vraiment très clairement divisé, les Noirs, ben, ou à tout le moins, les gens qui parlent pour la communauté noire de manière plus forte sont toujours à demander pour que l'identité noire reconnue, que soit reconnue, mm-hmm. que la culture accepte. Le slogan qui est toujours mis de l'avant, c'est Power to all the people. Oui, il y a Black Power qui est appelé, mais c'est beaucoup de l'inclusion. Après ça, on a le groupe super raciste qui dit pas de noir, pas de juif, pas de d'homosexuel, pas de rien finalement, autre que des bons blancs protestants.
Très conservateurs.
C'est ça, voilà. qui ont bâti l'Amérique avec les valeurs sudistes. Il y a énormément de drapeaux confédérés à tout bout de champ. Culture des armes à feu qui est là présente aussi. Puis c'est toujours un message vraiment d'exclusion. C'est toujours un message de « Non, non, l'Amérique est à nous, les autres, allez-vous-en. Mm-hmm. C'est à nous autres, c'est pas à vous autres d'être là, donc... » Comme bas les pattes.
Mais je comprends pas, Louis, comment il a infiltré... Je veux dire, il a jamais montré sa face. Il s'est jamais montré physiquement. Je veux dire...
Mais dans la bande-annonce, à la fin, on entend qu'il demande de trouver une espèce d'autre policier blanc pour prendre sa place quand ils doivent se rencontrer. Okay. Ça devait pas être facile, ça, d'avoir la même voix, la même...
Oui, le film passe un peu par-dessus ça, mais apparemment que c'était tout un processus. Et c'est là que Adam Driver rentre en ligne de compte. C'est lui, dans le fond, qui est Flip Zimmerman, qui est le policier blanc d'origine juive, qui... parce qu'il y a aussi tout un aspect, à un certain point, parce que veux pas le Ku Klux Klan, oui, c'est contre les Noirs, mais à un certain point, il y a un des personnages du Ku Klux Klan qui prend en grippe vraiment, lui, l'identité juive. Les théories du complot, lui, c'est son truc. Fait que les banques juives, les journaux juifs, Hollywood juif contrôlent tout. L'Holocauste, c'est jamais arrivé. Puis là, de l'autre côté, t'as le personnage de Flip qui joue Ron Stallworth, donc qui joue l'homme noir qu'ils ont appelé au début, qui a jamais vraiment vécu dans la foi juive, mais qui soudainement se fait éminemment attaquer pour ça, pour une entité, dans le fond, auquel il n'y a pas connexion, mais qui est là quand même. Donc, il y a quand même un peu de torture. Ça va malheureusement pas aussi loin qu'il aurait pu. On voit que le film a mis ça en place, mais n'a pas voulu finir cette lignée-là.
On se sent plus sur l'autre qui...
C'est aussi parce qu'il y a une histoire qui est en cause. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation qui est supposée arriver dans quelques semaines. Des deux côtés, on s'entend que ça s'en vient. Il y a David Duke qui débarque en ville à un certain point. Donc, tout le long du film, en fait, c'est ça. C'est Ron Stallworth, le policier noir, qui parle au téléphone, que ce soit avec les membres locaux, que ce soit avec David Duke, qui est en ce moment-là à Louisiane. Et c'est Adam Driver qui joue Flip Zimmerman, qui joue Ron Stallworth, le redneck blanc qui va les rencontrer dans le fond, qui se ramasse à traîner, tu sais, qui va au champ de tir avec eux autres d'un champ, qui, tu sais, le classique.
Très cliché dans un sens, mais c'est vraiment ça l'histoire.
Mais c'est ça que j'ai dit, là. Ce film-là a pris la subtilité, a fait, n'a pas besoin. Là, il a marché vers la fenêtre de la voiture, puis il a fait, on va y aller pour des messages. Il y a vraiment un moment magnifique où c'est jamais mis dans le film ou que la culture des armes à feu est là, mais il y a vraiment un moment où ils sont tous en train de tirer dans un champ, ils s'en vont, puis là, Ron passe en arrière après qu'il ait pris des photos, puis fait juste venir voir, puis on voit comme les cibles qu'ils ont utilisées pour tirer dessus, qui sont toutes des silhouettes caricaturales d'hommes noirs.
Ah mon Dieu, mais c'est fou cette affaire-là, c'est complètement fou. Mais c'est sûr que c'est vrai.
Ben oui,
le premier gros film de propagande, et il prenait des hommes blancs, j'en ai parlé dans mon truc sur les films de guerre, il prenait des hommes blancs et leur peinturait le visage en foncé, c'était en noir et blanc. Parce qu'il voulait justement même pas engager de personnes noires pour faire ça.
Il y a une référence à ça avec le passage du film Birth of a Nation.
Ben c'est ça, c'est ce film-là. C'est ça. Voilà.
Il est mentionné par nom, on en voit même des extraits dans le film.
Ah oui.
Il y a aussi quelques hommages au très classique film de Blaxploitation qui ont sorti à l'époque. Les films de Blaxploitation, un jour je ferai un segment là-dessus, qui sont ces films basés sur des concepts qui ont déjà été faits, mais avec des acteurs et une finalité noire. Donc, un des très classiques, c'est... on se rappelle tous de Dracula qu'il y a eu à l'époque. Ben, il existe Blacula.
OK, ça va à ce point-là.
Non. Et c'est complètement ridicule. Okay, et c'est toujours absurde. Un peu ça, le setup.
OK, bon. Coudonc.
Mais il y a beaucoup d'hommages à ça. C'est une part importante de la culture noire américaine. Donc, c'est là. Je donne un solide 8.5 sur 10. Il y a une couple de trucs qui ont été set up dans le film qui ont jamais fini. Au niveau narratif, comme je dis, ça perd un peu parce que la subtilité est partie par la fin du champ. Mais le message est vraiment puissant. La finale est vraiment impressionnante. Un solide 8.5. Je le recommande à tous et à toutes. C'est plus drôle que je m'y serais attendu.
Ouais, ben c'est ça. C'est dur. Je suis surpris que ça soit drôle parce que c'est quand même des sujets très durs, là.
Ouais, mais je pense que c'était nécessaire. Okay. Je pense que certains points, ils avaient besoin de ça parce que ça venait lourd à certains points. Okay. Petite lenteur au deuxième acte qui m'a gossé. Ça aurait pu juste accélérer un peu, j'aurais pu couper. C'est quand même un 2h10, 2h15 de film. Là.
C'est c'est pas 1h45.
Là. Non, c'est pas 1h30. C'est tout là. Mais ça vaut la peine. 8.5. Ben,
merci.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti avec mes...
Les sorties cette semaine. On a L'Ultime Voyage, un drame espagnol-argentinien originaire d'Espagne et d'Argentine, réalisé par Pablo Solar, se mettant en vedette Miguel Angel Solar. Abraham Bernstein, un tailleur juif de 88 ans, s'enfuit de Buenos Aires pour la Pologne, où il espère trouver un ami qui l'a sauvé d'une mort certaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après 7 décennies sans aucune nouvelle de lui, Abraham va essayer de retrouver son vieil ami et tenir sa promesse de revenir un jour. State Kitchen américain, réalisé par Crystal Mosel, mettant en vedette Rachel Weisz et Tasha Washington, la vie d'une adolescente solitaire change radicalement lorsqu'il fait la connaissance d'un groupe de skateboarders.
Ah.
Un prêté d'ailleurs, version française de A Touch of Spring, drame canado-chinois, réalisé par Xiaodan Xi, mettant en vedette Wan Ziyan, Émile Progloutier et Kiefer Sui.
Ah, ça va être bon, ça! C'est sûr que c'est une critique commune, là.
Émile Progloutier, moi, je l'aime beaucoup.
Oui, Émile Progloutier, dans un film avec des Asiatiques, et réalisé par un Asiatique, je pense.
Oui.
Ça va être... Moi, je suis sûr que ça va être bon.
Attends, Li Fang est une immigrée chinoise qui habite à Montréal depuis plus de 10 ans. Confrontée à un problème de fertilité, suivi d'une séparation violente avec son conjoint québécois, Eric, Li Fang est au désespoir. Elle s'enfuit du chaos de sa vie à Montréal et part à Dazhou, son lieu de naissance au sud de la Chine, pour visiter son grand-père. Le soutien et l'inspiration que lui apporte par sa famille et un ancien amant l'aide à sortir de son impasse. Fait que je pense que Émile Procoutier joue un méchant, un pas bon là-dedans.
C'est donc intéressant. Non, ça, c'est une critique commune assurée, moi je dirais.
Petite Italie, version française de Little Italy, comédie romantique américo-canadienne, réalisée par Donald Petrie, mettant en vedette Hayden Christensen. Leur romance florissante tentera de survivre à la guerre entre les restaurants de pizza concurrents de leur famille. Une histoire de Roméo-Juliette moderne avec du pepperoni. Papillon, Serbie-Monténégro, réalisé par Michael Noor, mettant en vedette Charlie Hunnam, Tommy Flanagan et Rami Malek. Henri Charrière dit Papillon, malfrat de petite envergure des bas-fonds du Paris des années 30, est condamné à la prison à vie pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Il est envoyé sur l'île du Diable en Guyane où il va faire la connaissance de Louis Degas qui, en échange de sa protection, va aider Papillon à tenter de s'échapper.
Ah oui?
Carnage et les Joyeux Touffus, version originale de The Happy Times of Murder, américain réalisé par Brian Henson, mettant en vedette Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph, Leslie David Baker. Dans un monde où les hommes et les marionnettes cohabitent, deux détectives, un humain et une marionnette, sont forcés de travailler ensemble pour résoudre une affaire de meurtre, dont les victimes sont l'ancien casting de The Happy Time Gang, un show très populaire de marionnettes. Qu'on comprendra ici que c'est la version Team America, mais des Muppets.
Ça va être... voilà.
Cadaver, horreur américain réalisé par Diederik Van Rooyen. Une ex-policière déchue en désintoxication accepte un travail dans la morgue de l'hôpital où elle se soigne. Un corps sévèrement mutilé lui est confié. La jeune femme assiste alors à une série de meurtres qui la conduira à affronter une entité démoniaque. Un samedi soir ordinaire. Brief, drame sportif australien réalisé par Simon Baker. Brief nous fait découvrir Piquelet et Looney, deux jeunes adolescents grandissant dans une idyllique région isolée de la côte ouest australienne. Assoiffés de nouvelles aventures, le duo développera une amitié improbable avec un vieil aventurier féru de surf qui marquera profondément et à jamais la vie des deux garçons au travers de son enseignement à mesurer le risque. Donc, bienvenue à cette deuxième demi-heure de Cinébrunch. On se parle de nos films favoris de Disney. Mais avant tout, Jim nous parle de météo.
Oui, ben en fait...
Des sports?
des sports, non.
Non, mais pas. Jim à la météo ou Jim au sport?
Ah, au sport, non.
Ou Jim
non.
Dans le brouillard?
Je parle d'humidité ou en tout cas de brouillard. De brouillard, je parle de brouillard. Le film, donc, Dans la brume, un drame de science-fiction franco-canadien, peu de gens le savent bizarrement, du réalisateur québécois Daniel Robbie, qui a fait notamment Funky Town, et Louis Cyr. En vedette, j'en parlais la semaine dernière, Romain Duris, qui jouait dans les films Fleuve Noir et La Confession. Aussi, Olga Kurilenko, qui est magnifique et qu'on connaît normalement pour être dans des films policiers ou d'espionnage. Elle a d'ailleurs joué dans 007 Quantum en compagnie de Daniel Craig. Notons la présence d'une jeune actrice aussi, Fantine Ardoin, qui joue une jeune adolescente atteinte d'une maladie rare, le syndrome de Stimberger, qui doit vivre en isolation totale dans une bulle sans pouvoir avoir de contact avec aucun être humain. Donc,
oui, c'est terrible ça. Il y a un épisode de Grey's Anatomy justement là-dessus, puis c'est vraiment terrible.
Oui, en fait, j'ai jamais réussi à trouver quoi que ce soit sur cette maladie-là, bizarrement. Donc, je pensais que c'était, disons, fictif, mais que clairement, c'est basé sur quelque chose là. Alors, les acteurs sont donc tous très bons dans ce film-là. D'entrée de jeu, le film Dans la brume, voici la bande-annonce.
Un jour, ma fille, je vais la prendre dans mes bras et elle aura une vraie vie.
C'était quoi? C'était un tremblement de terre?
Et là-bas, très près le relais?
Ouais.
J'arrive dans deux minutes.
Courez!
Sarah! Sarah, réponds-moi!
Mm-hmm.
Dis-moi, est-ce que la fumée rentre dans ta bulle?
Non, vous inquiétez pas.
Ça n'a pas l'air de monter jusqu'ici.
Il ne reste qu'une barre de batterie. Si la fumée se dissipe pas,
elle passe pas la nuit.
Ça a l'air assez rough, hein?
Calvis.
Est-ce que ça a piqué ta curiosité, Louis?
Ouais, correct.
Correct, Mélina?
Un peu.
Ben écoutez, je vais être honnête avec vous, c'était la bande-annonce du film Dans la brume, et je vais vous le dire, là, l'audio ne rend pas du tout l'intensité de cette bande-annonce-là. C'est dans le visuel que ça se passe complètement, et le film d'ailleurs au complet. Quand j'ai vu cette bande-annonce-là, j'ai tout de suite dibs sur la critique du film. J'ai tout de suite fusil à pompe sur la critique du film. les images, l'intrigue, ça a l'air extraordinaire quand on regarde ça dans la bande-annonce. J'avais vraiment d'excellentes attentes, de grosses attentes pour ce film-là. Voyons voir si j'ai été déçu ou pas. Donc d'abord, l'histoire. Alors le couple Mathieu et Anna, ainsi que leur fille Sarah, qui est atteinte donc du syndrome de Stimberger, vivent dans un logement de Paris. Sarah est contrainte donc de demeurer en isolation complète dans une espèce de gros aquarium en verre, aménagé à la maison. 24 heures sur 24, elle peut jamais sortir de là. Mathieu, interprété par Romain Duris, rêve de pouvoir prendre sa fille dans ses bras et qu'elle ait une vie normale. Et soudain, un important tremblement de terre survient. L'électricité coupe, ou manque plutôt, et les rues s'emplissent à une vitesse folle d'une étrange fumée opaque et toxique. Un véritable brouillard qui s'étend à perte de vue dans la ville de Paris. Mathieu, alors que la fumée entre dans le bâtiment, doit réagir, sa femme aussi. Ils montent dans les étages de l'immeuble pour se réfugier, donc dans la demeure de voisins âgés, alors que leur fille, elle, heureusement, est protégée à l'intérieur de sa bulle, donc à environnement contrôlé. Gros problème, la fumée ne disparaît pas. Elle continue de rester là après plusieurs heures. Elle continue tranquillement de monter et les batteries de la bulle de Sarah vont pas durer éternellement. La fumée est mortelle lorsqu'on la respire et presque toute la ville de Paris a été décimée en quelques minutes.
Wow.
Donc ça, c'est l'intrigue de ce film-là. Alors tout là-dedans est là pour que ça soit exceptionnel. L'histoire est excellente. L'idée d'un trailer apocalyptique, un peu de survie, est fameuse. La fumée, c'est de toute beauté à voir. C'est vraiment impressionnant, les images de fumée dans la ville. On est sur un toit, puis on voit... Puis j'étais à Paris, puis j'étais sur des toits à Paris, puis tu peux pas imaginer. L'image est vraiment extraordinaire. Ça a coupé le souffle de voir ça. On y croit vraiment à ce niveau-là. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Je suis resté scotché à ma chaise pendant une très longue partie du film. Les acteurs donc sont tous excellents, même Romain Duris, qui pourtant dans un rôle assez différent de ce qui nous a habitués, donc rend assez bien le personnage de Mathieu en homme d'action déterminé à sauver sa fille et à tout prix. Le couple de personnages âgés qui les héberge est magnifique de crédibilité et même touchant. En soi, tout est là pour faire un chef-d'œuvre de ce film-là. Alors, le problème, par contre, réside à une espèce de zone entre le scénario et la réalisation. Malheureusement, des éléments vitaux ne sont pas expliqués du tout dans le film, et c'est vraiment, vraiment un problème. Premièrement, on n'apprend jamais pourquoi il y a de la fumée partout.
OK, jamais.
On ne sait absolument rien de l'origine réelle de la fumée, de la cause, de la source de ça. Tout ce qu'on sait, c'est que ça ressort du sol. Ensuite de ça, on ne sait toujours rien non plus de la fameuse maladie de Sarah. On ne sait pas pourquoi elle a cette maladie, on ne sait pas depuis combien de temps, on ne sait pas. On ne sait rien de ça, on ne sait pas en quoi cette maladie-là est liée à l'histoire. Et malheureusement, ça a une importance dans l'histoire en plus. Et étrangement, on ne sait pas non plus pourquoi un phénomène un peu particulier arrive. Il y a des chiens qui réussissent à vivre et à respirer et à fonctionner malgré la fumée.
Ben, c'est parce que les chiens sont la race animale supérieure.
Oh mon Dieu. Donc, on verra. Mais le problème du film, l'immense, l'insurmontable et incontournable échec du film, c'est sa fin. Alors évidemment, je ne veux pas trop dévoiler parce que quand même, c'est impressionnant à voir. Je recommande aux gens, si vous avez envie de voir ce film-là, d'y aller parce que c'est vraiment impressionnant à voir. Mais
Amar.
Je ne vous dirai pas rien de ça, mais il y a une immense surprise qui frôle le Deus Ex Machina à la fin sans presque absolument aucun moyen de deviner l'incroyable renversement de situation qui va se produire. J'ai envie de dire l'immense ironie du film au complet qui fait en sorte que le ou les éléments les plus dramatiques du film auraient pu être évités. Bref, grosse déception pour moi, un gros sentiment d'inachevé. Je pense que ça aurait en fait dû être une série plutôt qu'un film. Il y avait de la matière à faire plusieurs saisons d'une série là-dessus sans jamais perdre d'intérêt. J'en aurais pris beaucoup plus. Il y avait de quoi ameubler dans l'espèce de mystère qu'il y a là-dedans, dans le côté peut-être même éventuellement militaire qui aurait pu apparaître de cette histoire-là, de sauveteur, de tout ça. On n'en rentre même pas dans ces éléments-là qui auraient pu être fantastiques. Et on n'entre pas vraiment plus que ça dans la psychologie des personnages. Malheureusement, on n'a pas le temps. Donc, je donne un 7 sur 10 au film.
Okay.
Au film, je veux dire la fumée, mais non, au film Dans la brume. Il y a 2 points de perdu pour la fin et 1 point de perdu parce qu'on n'explique absolument pas les causes de l'intrigue et que malheureusement, ça donne vraiment l'impression que l'auteur lui-même n'avait pas pris le temps d'inventer une raison pour tout ça. Mais sinon, je vous dis, c'est impressionnant à voir comme film et c'est un bon trailer, à la base. C'est juste que ça finit pas comme il faudrait que ça finisse. Voilà. Alors, c'était Dans la brume, bon cinéma.
Merci beaucoup, Jim.
C'est le moment du top 3.
Donc, pour le prochain segment, étant donné que la semaine passée, on a fait une critique commune de l'histoire de Jean-Christophe, on s'est dit qu'on allait continuer dans le thème de Disney, puis qu'on allait faire un top 3 de nos films favoris de Disney, histoire que vous en sachiez un peu plus sur nous, mais en plus qu'on ait la chance de jaser Disney, parce que c'est toujours le fun de parler des classiques.
Absolument.
De Disney.
Oui.
De Disney.
J'ai dit ce mot-là trop souvent, c'est en train de perdre son sens.
Oui, tu donc, dis que t'as juste un nez en plus.
Au segment.
Segment de nez.
Excuse-moi. Fait que Jim!
Oui!
Ton top 3, ton 3!
Alors, en troisième position... J'ai l'impression qu'on va avoir des doublons dans cette histoire-là. Le Roi Lion.
Oh oui.
Hein, le Roi Lion, qui, je pense, est sans doute un des films de Disney les plus lucratifs de tous les temps. Bon, l'histoire du cycle de la vie, la musique d'Elton John.
It's the circle of life.
Voilà, les animaux qui disent des niaiseries. Et surtout, on aborde dans ce film-là des thèmes très lourds, comme la mort, la vie.
Et comme dans la majorité des films de Disney, il y a souvent un parent qui meurt.
Ouais, mais là, c'est vraiment Hamlet version lion. Version, là, comme...
version savane. Mais, oui, effectivement. Puis ce film-là, bien évidemment, je pense que sa force, c'est d'avoir réussi profondément à amener ces thèmes-là aussi lourds dans un film pour qu'à la fin, les enfants aient capté ces concepts-là sans non plus être exagérément tristes, parce que ça finit quand même bien, mais en même temps... Je pense que c'est la façon, c'est le film qui m'a le plus aidé à processer le concept de deuil. Fait que c'est bien. Donc voilà, Le Roi Lion, mon numéro 3.
Moi, tu vois, ça a été le premier film où j'ai commencé à me sacrer des problèmes de ma vie.
Ah oui?
Hakuna Matata.
Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quelle chanson
fantastique! Oh, ok, c'est bon. Mélina, ton numéro 3.
Hey, moi, mon numéro 3, je vais y aller avec Alice au Pays des Merveilles.
Un peu la version avec Johnny Depp ou la version animée?
La version animée, là.
Ok, c'est beau. C'est excellent. Oh,
ouais. C'est mieux comme ça.
C'est oui. Safe.
Ah, mais quel film que j'ai revu à plusieurs reprises. Film que j'adore. Film que je pense que, oui.
L'esthétique de ce film-là était tellement malade. Ouais, malade. Je pense que c'est ma version favorite du chat de Cheshire.
Oui.
Je trouve que esthétiquement, c'est là qui est le mieux réussi avec son sourire qui, énigmatique qui reste après que le reste disparaisse. Non,
c'est malade. C'est malade comme film. En fait, moi, toi, tu vois, Louis, t'as dit qu'après Le Roi Lion, t'as commencé à te foutre un peu des problèmes de ta vie. Moi, après avoir vu Alice au Pays des Merveilles, c'est là que j'ai commencé à être un peu moins ponctuel dans ma vie.
À cause du lapin.
À cause du lapin, oui, c'est
ben
ça.
Ben oui, évidemment, évidemment.
Non, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce film-là. Je pense que les couleurs de ce film-là sont hallucinantes. Et c'est un film très intéressant, là, la petite Alice qui tombe dans le trou et on pourrait... Je pense que le regarder maintenant, il y a plusieurs doubles sens que pas compris à l'époque. Mais j'aimais bien la suite d'aventure quand elle est avec les deux messieurs puis là, ils mangent toutes les moules à la table ou un joyeux non-anniversaire, des choses comme ça. C'est un film...
On lui coupe la tête!
Aussi, exactement. Passionnant comme film. Les fleurs qui se mettent à chanter à un moment donné. J'ai plein d'images qui me reviennent en tête quand je pense à ce film de Disney.
Moi, j'ai vu le... Moi, j'aimais mieux la suite Alice de l'autre côté du miroir, qui est la suite de Alice au Pays des Merveilles, en animation toujours. J'ai capoté sur ce film.
Ah oui, je l'ai même pas vu.
Ah ben, je te recommande fortement.
OK.
Moi, on reste dans le même... écoute, pas encore de doublon, parce que mon numéro 3, c'est Aladdin. Parce que Robin Williams, c'est un film d'amour. On s'entend, le voleur de rue se ramasse avec la princesse, mais le génie, c'est Robin Williams qui le joue. Les chansons sont malades. L'histoire est écœurante de comme partir de rien, être capable de monter au travers de son charme, sa capacité de jeu. Tu sais, on parle des choses qu'on a commencé à faire sur le film de Disney. C'est avec Aladdin que j'ai compris que des fois... juste l'attitude, c'était assez pour te faire traverser toutes les portes que t'as de besoin. Puis on a dans le personnage du prince, vraiment, pas du prince, d'Aladin, l'exemple même de ça. Puis la toune d'intro est vraiment malade. Fait que Aladin, top 3.
Vive les tapis volants.
Jim, top 2.
En numéro 2, de mon côté, le Livre de la Jungle, version d'animation de 1967, avec la fameuse chanson.
Il en faut peu pour être heureux.
Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux.
Tu manges des fourmis?
Ah, tu peux me croire. Tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein?
Mowgli, attention!
Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux.
Mais oui.
Et merci, Balou. Merci.
C'est
d'ailleurs,
ça?
D'ailleurs, je tiens à souligner, shout-out à tous les animateurs de 15 jours. Ça en prend un par 15 jours qui s'appelle Balou.
Évidemment,
et
évidemment.
Ils ont toute ma shape.
Ouais. Ah ben là, ça c'est une autre histoire. Alors oui, définitivement, Le Livre de la Jungle, un classique. Je recommande à tout le monde. Les chansons sont le fun, mais surtout, ça, encore une fois, aborde certains thèmes sur l'identité réelle, à qui on appartient. Film que j'ai toujours trouvé qui finissait très mal, mais en vieillissant, quand je le regarde, je me rends compte qu'il finit pas si mal que ça. Donc voilà, Le Livre de la Jungle, numéro 2.
Mina, top 2.
Top 2, hey, c'est là qu'on va avoir un doublon. J'ai pas le choix d'y aller avec Le Roi Lion, parce que c'est un film qui m'a extrêmement marqué. Je trouve qu'effectivement, c'est un des films qui est très réussi de Disney, qui a une profondeur incroyable, comme tu l'as dit. Et effectivement, je pense que ça l'a beaucoup marqué mon enfance. Justement, je suis tombée sur une photo récemment sur Facebook, puis il y avait une photo du Roi Lion, puis ça disait « Après la mort de son père, un jeune homme décide de devenir vegan et de traîner avec des hippies dans la jungle. » Genre, j'ai trouvé ça excellent, parce que il y a tellement de légèreté en même temps dans ces films-là, mais en opposition à des concepts tellement, et comme tu dis, le concept de la mort qui est extrêmement fou. Extrêmement développé, l'obscurité là-bas, tout ça. Et c'est un film qui a vraiment définitivement marqué mon enfance, un film que j'ai beaucoup aimé et que j'aime encore beaucoup. Donc voilà, Roi Lion.
Moi, c'est mon top 2. C'est. Qu'est-ce que c'est? D'après toi, Jim. As-tu une idée?
Dumbo, l'éléphant volant, parce que tu as décidé qu'à ce moment-là, tu voulais avoir des grandes oreilles pour voler.
C'est Mulan, parce que j'ai vraiment adoré l'esthétique du film. J'aime beaucoup les styles au niveau artistique, j'aime beaucoup le genre, certains aspects du mouvement, des mouvements orientaux. Mm-hmm. J'aime beaucoup l'histoire derrière ça, parce que c'est justement une jeune femme qui fait « Je m'en fous de vos stéréotypes, je vais devenir un homme. » Et c'est vraiment ça la pièce, « I'll make you a man ». Capable de traverser au travers les stéréotypes, il y a un tout petit dragon qui l'aide au travers ses aventures. Le tout est pour garder l'honneur de son père. Vraiment un film que j'ai trouvé super intéressant, qui esthétiquement était dur à battre et qui en plus avait une belle morale à la fin.
Quelle année ça?
Ouh, excellente question, je suis pas sûr.
Les années 2000, c'est pas si...
Mulan? 1998.
Ah, ok. Bon.
Pas... I'll Make a Man Out of You est la pièce maîtresse du film.
Vous serez vainqueur. Vous n'êtes qu'une bande de femmelettes, mais envers et contre tout, je saurai faire de vrais hommes de vous.
Eh bien.
Yes. Jim, top 2. Top. Donc, Jim, numéro 1. Numéro 1.
Oh, alors, numéro 1, écoutez, film plus récent que les autres, Jean-Christophe et Winnie. Donc, on vient de voir.
Ah oui, ok.
Au cinéma. Tu, vient de remporter. Je peux pas faire autrement. J'ai jamais aussi hautement coté un film de ce type de l'univers Disney. Donc, voilà, Jean-Christophe et Winnie, le film sur la biographie de Jean-Christophe. Très, très touchant ce film, je le rappelle. Donc, un film qui m'a jeté à terre et qui a mis Mélina au bord des émotions. Voilà, c'était mon numéro 1.
Mais wow. Là, je suis troublée, Jim, parce que moi, j'avais pas prévu. Mais Jean-Christophe, j'avais pas du tout pensé, en fait, à mettre ça. Je m'enlignais très clairement avec les Aristochats. Ça fait plusieurs fois que je parle des Aristochats.
Non, mais je pense que c'est avec les Aristochats. Non, 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 vas-y.
Je vais quand même mes mentions spéciales à Jean-Christophe, parce que mais quel film excellent. Mais les Aristochats, écoutez. J'ai dû brûler la cassette tellement je l'ai écouté. des chats qui jouent du piano, c'est excellent, hein? Do, mi, sol, do, do, non. Bon. En tout cas, ça, c'est...
Non, 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 c'est pas... C'est... Moi je tiens à souligner que le génie des Aristochats, c'est que tout ce temps-là, c'est des cool cats qui jouent du jazz.
C'est vrai, c'est ça.
Historiquement, on appelait ces gens-là des cool cats. Comme, il y a quelque chose de malade avec le...
Ce film-là est juste malade.
C'est, tout okay. Ça est un gros jeu de mots juste pour ça. Moi, j'avais l'intention de faire une mention spéciale à Aristochat, bon. Mais je savais un peu que j'allais me faire couper de court.
Oui, ça m'a marqué. Ben, oui. C'est un film, comme Alice au Pays des Merveilles, c'est un film avec des couleurs très vives, très intenses, mais le côté jazzy des Aristochats, moi, quand j'étais jeune, me faisait lever de mon divan et me dandiner le popotin sur la toune psychédélique de la fin... Les Aristochats, puis là, ils se mettent tous à jouer de la trompette, puis c'est excellent. Écoutez, pour moi, des chats qui jouent de la musique, c'est vraiment très cool.
All right.
Oh, ouais.
Et Louis, numéro 1.
Numéro 1. Je vais pour un choix un peu champ gauche. Je vais pour un film qui a pas tant de scénario.
Fantasia.
Je vais pour Fantasia 2000.
Ah, mais là, effectivement. Effectivement.
Pas l'original de 1940. Bon, je l'ai moins...
Moi aussi, je l'ai moins aimé que le nouveau.
Mais Fantasia 2000...
C'est merveilleux.
Avec la scène du magicien, avec
les
la
baleines,
scène...
Les baleines, le magicien, les
flamants
roses. Il y a tellement
de choses extraordinaires. C'est tellement un film... Ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue, il n'y a pas vraiment...
Au profit de la musique.
Mais c'est tout esthétiquement vraiment extraordinaire. C'est un film, en fait, que j'ai vu une première fois quand il venait de sortir en 2001.
Ah,
j'avais
ouais.
À l'époque 11 ans. Je comprenais rien du tout. Je regardais ça et j'ai fait « Papa,
pourquoi?
Qu'est-ce qui se passe? » Je suis pas convaincu que...
La musique
ne
suffisait pas à t'aider à comprendre.
Mais qu'elle m'a aussi posé... Avoir des balais, sourire à la fin.
Ouais, c'est un peu spécial.
Je suis pas confortable. Fait, mais je l'ai réécouté quelques années plus tard. J'ai fait « Oh mon Dieu, le génie de ce quel truc-là. » Puis je pense que ça a aidé vraiment beaucoup à former ma pensée autour du film, parce que justement, c'est pas nécessairement juste l'histoire. Des fois, ça peut être uniquement un film esthétique. Une de mes scènes favorites à ce jour du cinéma, c'est le film d'animation « Ghost in the Shell ». Il y a une scène où ce qu'on passe au-dessus de Mega Tokyo, il y a un cœur qui part en arrière, vraiment magnifique. Je pense que c'est Fantasia 2000 qui m'a permis d'apprécier des scènes comme celle-là, qui m'a permis de m'extraire justement de la trame narrative pour juste apprécier les belles choses du film, de juste voir qu'est-ce qui est en train d'arriver. Puis pour ça, j'aimerais remercier Fantasia 2000.
Eh bien, oui, très bon film.
D'avoir donné son nom à un festival de films vraiment cool.
Oui.
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 Hey!
Mention spéciale, les gars!
Mention spéciale, Jim?
Je sais pas. Ben, le Robin des Bois, que j'aimais énormément quand j'étais jeune. Le film d'animation, toujours. De Disney, sinon, mon Dieu, il y a tellement de possibilités. Mais non, je vais m'en tenir à mes trois. Ouais.
Ah ouais, ok, toi, tu...
Je suis un élitiste.
Moi, je mention spéciale pour Roxy Rookie. Ah, le jeune renard et le chien, les 101 dalmatiens.
C'était bon.
Ah oui, les 101 dalmatiens, c'était bon.
Les 101 dalmatiens aussi, c'était écœurant. Bambi aussi. Ça, c'était. Oui, mais ils sont tous rôles d'une certaine façon.
J'ai failli dire Bambi parce que c'est littéralement le premier film où j'ai pleuré.
Ouais, ouais.
Wow. Et pour finir, ma mention spéciale, Dumbo, que bon, on va voir ce que Tim Burton va nous en faire bientôt.
Ça me semble intéressant.
J'ai une seule mention spéciale. D'ailleurs, ça fait partie des reprises de films qui m'ont pas impressionné. C'était La Beauté et la Bête.
La Belle et la Bête.
La Belle et la Bête. Beauty and the Beast. La Belle et la Bête, avec, entre autres, l'extraordinaire chanson de Gaston. Mm-hmm. Il y a quelque chose avec une jeune femme qui est officiellement une nerd, qui se fait croiser par la ville au complet, puis qui décide de vivre par elle-même, puis régler ses shit pour elle. Non, j'ai beaucoup d'appréciation. Aussi, avoir un personnage, avoir un vilain qui est finalement juste un douchebag. Il mange 3 douzaines d'œufs tous les matins. Il y a personne qui rote comme Gaston. Il y a personne qui frappe comme Gaston. Je veux dire, entre ça et des selfies de gym, je suis pas convaincu qu'est-ce qui...
Ouais, effectivement.
Pas de gym.
Non, mais tout le monde avait compris qu'on parlait pas de moi. Oui, c'est ça.
Ben, on sait pas, j'ai pas vu tes selfies.
Je pense pas que Jim était quelqu'un qui donne dans Lego Portrait, en fait.
Non, pas vraiment.
Va falloir qu'on change ça. 2018 va être l'année de Lego Portrait de Jim. C'est donc la fin de cet épisode. Je vous souhaite à tous et à toutes un extraordinaire popcorn, un bon samedi et une bonne fin d'été à tous et à toutes.
Oui, bonne semaine.
Bonne semaine.